Sébastien, 14.
Merci. Vous avez une feuille avec quelques versets bibliques dans le passage de la prédication en tête, Romains 14, 7 à 9. Je vous donne juste le contexte de Romains 14. Il y avait des disputes dans l'Église. C'est des disputes au sujet de ce qu'on peut manger et pas manger en tant que chrétien. C'est des disputes au sujet des jours sacrés, des jours saints. Est-ce qu'il y a des jours plus saints que d'autres? Doit-on garder certains jours, certains festivals? Et au milieu de cela, Paul, enfin le Seigneur parle à cette église par Paul. Et il dit ceci, en effet, et je lis le verset 7, ou si vous voulez, en tête de votre feuille, en effet, nul de nous ne vit pour lui-même, et nul ne meurt pour lui-même ou à lui-même. Car si nous vivons, nous vivons au Seigneur ou pour le Seigneur, et si nous mourons, nous mourons au Seigneur ou pour le Seigneur. Soit que nous vivions, soit que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Car Christ est mort et revenu à la vie pour être Seigneur, maître, propriétaire des morts et des vivants. Et les morts et les vivants en question sont les croyants ici. Je voudrais que nous passions un moment à réfléchir sur une chose extrêmement importante aujourd'hui, dont nous avons évoqué un peu certains aspects dans la réunion de prière. Et c'est ce qu'on appelle la Seigneurie de Jésus-Christ sur vous. Vous êtes chrétien? C'est une question que je vous pose. Alors, ça veut dire que vous vivez avec Christ comme votre Seigneur. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que cela change? Quel est l'appel du Seigneur quand il vient vers vous, vous dire « Prenez mon joug sur vous. Je suis le Seigneur. Embrassez-moi comme cela. » C'est ce que nous voulons comprendre. Et le premier point que je voulais vous montrer, un peu dans ce passage, mais c'est plus dans le grand contexte, c'est que la Seigneurie de Jésus dans votre vie est une chose centrale. C'est-à-dire, c'est vraiment le cœur de ce que c'est que d'être chrétien. C'est d'être à Christ comme Seigneur, de suivre Christ comme Seigneur. C'est assez étonnant qu'on a dans l'Église, ici à Rome, un problème de viande et de festival. Et Dieu va résoudre au moins une grande partie de ce problème de viande et de festival en disant, vous avez plutôt un problème, non pas de viande et de festival, mais vous avez un problème de seigneurie. C'est dans ce contexte que Paul évoque ici cette fête. Rappelez-vous, nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur, nous mourons pour le Seigneur, nous sommes au Seigneur. Christ est mort et revenu à la vie pour être Seigneur. Je ne vais pas vous expliquer comment ça va résoudre certaines disputes, parce que c'est pas, on n'a pas un problème de viande et de festival aujourd'hui. Okay? Mais nous avons certainement d'autres problèmes dans notre vie, dans notre relation avec Dieu, dans cette réalité de Christ comme ton Seigneur et la solution qui va tout régler. Donc, c'est central. Deuxièmement, La seigneurie de Christ dans ta vie est positive. Alors, j'ai demandé l'autre jour à certains, qu'est-ce que cela veut dire que Jésus est ton Seigneur, si tu es chrétien? Et quelqu'un a dit, ça veut dire que nous devons lui obéir. C'est ce que vous auriez dit? Je crois que c'est la première chose qui vient dans notre esprit quand nous pensons, qu'est-ce que ça veut dire que Christ est mon Seigneur? Mais, en fait, bibliquement, ce n'est pas la première chose que ça signifie. Et nous pouvons un peu gagner cette perspective en remarquant le verset 9. Car Christ est mort et il a vécu, c'est-à-dire il a revu, il est ressuscité, afin d'être Seigneur des vivants et des morts, des croyants vivants et morts. Est-ce que vous remarquez quelque chose de bizarre là? Est-ce que Jésus, le Fils de Dieu, n'a pas toujours été Seigneur? Si. Mais la seigneurie de Jésus dans ta vie n'est pas sa souveraineté sur toute chose qu'il possède depuis toujours du fait d'être Dieu. C'est pas ça que cela veut dire que Jésus est mon Seigneur. C'est une seigneurie que Jésus a acquise seulement par sa mort et sa résurrection. Ah, ça me dit déjà que ça doit être une chose positive pour moi parce qu'il est mort et ressuscité pour faire du bien, pour sauver, n'est-ce pas? Donc cette seigneurie doit être une seigneurie rédemptrice. D'accord? Je l'explique comme ceci. Il y en a quelques-uns qui aiment le foot ici. Et supposons qu'à une époque dans l'histoire future, on arrive à un moment où il y a un joueur de foot dans le monde qui domine le monde de foot. On connaît quelques-uns qui sont un peu forts maintenant, mais non, je veux dire autre chose. Je veux dire qu'il est le seigneur du monde entier du foot. C'est-à-dire, quand il met son pied sur le terrain, son équipe gagne. D'accord? Il domine. Maintenant, supposons que vous faites partie d'une équipe adversaire, opposée. Est-ce que la seigneurie, la prouesse, la domination de ce grand joueur est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle pour vous? Le fait qu'il soit seigneur du monde du foot. C'est une très mauvaise nouvelle, n'est-ce pas? Mais supposons que ce joueur, qui était le plus grand et le capitaine de l'équipe adverse, change d'équipe et devient le capitaine de votre équipe. Alors, qu'est-ce que cela devient? Ça, c'est la meilleure des nouvelles. J'ai dit, la seigneurie de Jésus-Christ est positive. Parce que la seigneurie de Jésus-Christ, c'est ça que l'Évangile vous annonce. Que Dieu prend toute sa divinité, toute sa domination, sa grandeur, et il le met dans la personne de Jésus-Christ pour que ce soit une seigneurie divine pour nous, dans notre équipe, pour nous faire gagner, pour nous amener à la joie. Et donc, nous devons comprendre que la seigneurie de Jésus-Christ est une chose qui nous est donnée, un grand cadeau, comme ce capitaine qui devient notre capitaine. On va gagner. Ça va? Donc, ce n'est pas simplement le fait que je dois faire ce qu'il dit, car il est mon Seigneur. Non. D'abord, c'est... Il est là pour faire ce qui va me sauver, me bénir. Alors, j'ai abordé un tout petit peu déjà le troisième point. J'ai dit que la seigneurie de Jésus-Christ est centrale dans ta vie. J'ai dit que c'est une chose positive, comme ce capitaine qui devient pour vous dans toute sa prouesse. Et le troisième point, c'est que la Seigneurie de Jésus dans ta vie a deux aspects, comme deux ailes d'un avion. OK? Et il faut que tu goûtes et vives les deux aspects. Le premier aspect, je l'ai évoqué un peu dans cette réalité du capitaine, c'est que le Père, en envoyant le Seigneur être notre Seigneur, a fait de Jésus-Christ, du Seigneur, quelque chose pour nous. Alors, sans doute, c'est un peu comme ça que les disciples l'ont vécu au début. Imaginons les douze. Qu'est-ce que ça voulait dire pour eux? On va les interroger, on va faire une petite entrevue. Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous dès le début que Jésus, vous avez découvert que Jésus-Christ était Seigneur, Seigneur de tout, votre Seigneur? Ah, nous dit Pierre, parce que Pierre est toujours le premier à parler, n'est-ce pas? Il dit, ah, je me souviens du jour où on était dans cette barque et la tempête faisait rage. On était sûr qu'on allait en passer. Au milieu de la nuit, nous avions vu des tempêtes, mais celle-là était différente. Nous étions paniqués. Nous avons même réveillé le Seigneur avec des mots durs et désobligeants envers lui. Tu te soucies pas que nous sommes en train de périr? Le Seigneur s'est tenu debout, tout calmement, et il a parlé à la tempête qui ballottait le bateau, qui détruisait tout dans son chemin. Il a dit, taisez-vous. Et il n'y avait plus de tempête. Nous avons été sauvés. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur. Seigneur pour nous, dans notre bateau. Et Matthieu dit, oui, attends Pierre. Résumons, on n'a pas beaucoup de temps. Disons-le comme ceci. Pendant 3 ans, partout où nous sommes passés, quelle que soit la situation, l'endroit, le dilemme, la crise, le besoin, le problème humain, personne morte, personne aveugle, personne coupable, personne loin de Dieu. Si Jésus était avec nous, là où Jésus passait, les aveugles voyaient, les morts ressuscitaient, les coupables étaient pardonnés. Les personnes loin de Dieu, ils dominaient tous les problèmes humains. Nous avons appris ainsi qu'il est Seigneur, Seigneur pour nous, Seigneur pour les hommes. Donc ça, c'est la première partie, la première aile de la Seigneurie de Jésus-Christ. Toute la divinité de Dieu, et Dieu l'a fait demeurer en Christ afin d'être pour vous. Celui qui domine tous vos problèmes, qui vous amène dans toute la plénitude. Vous allez dire peut-être, et je finis cette aile en disant juste ceci, vous allez dire peut-être, mais je ne vis pas au premier siècle, je ne vois pas des miracles comme ça. Oui, vous en voyez, parce que vous-même, vous avez été aveugle, vous avez été mort spirituellement. Vous avez vu que Christ est Seigneur, qui fait des exploits pour vous. Sa Seigneurie vous a sauvés. Et on peut dire même maintenant que, comme Paul dit, c'est par Dieu que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous, sagesse, justice, sanctification et rédemption. Afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Donc la première aile, c'est que Christ a été fait pour nous quelque chose. il est quelque chose à moi, il m'appartient. Pour être ma justice devant Dieu, ma sanctification pour me changer, ma sagesse, ma rédemption un jour, et toute autre chose. En lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité, et vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute autorité. Un grand théologien a dit: la divinité même de Dieu réside dans son habitude de sauver. Et ça, c'est la première L. Christ est Seigneur pour vous sauver dans tous les sens. Mais c'est une L. Et vous savez, on n'a pas besoin de travailler comme Philippe dans le domaine des avions et des hélicoptères pour savoir que sans l'autre aile, l'avion fait un crash, n'est-ce pas? Et c'est là que, pour beaucoup de gens, ils passent à côté et se demandent souvent pourquoi, si on dit que Christ est tout ça, pourquoi je ne le vis pas? J'essaie de croire en lui, en tant que le Seigneur pour moi, mais j'expérimente pas. Il y a quelque chose qui cloche, qui n'est pas authentique dans tout cela pour moi. Ah, vous manquez l'autre aide. Parce que vivre avec Christ, c'est vivre avec lui comme Seigneur, et ça veut dire deux choses, et pas une. Donc, la deuxième chose, nous le voyons dans notre passage, c'est pas seulement qu'il vous appartient pour votre bien, comme le capitaine qui fait gagner votre équipe, mais vous lui appartenez. Nul de nous ne vit pour lui-même, nul ne meurt pour lui-même. Si nous vivons, nous vivons pour le Seigneur. Et même si nous mourons, même nous mourons pour le Seigneur, ça veut dire que tout entre les deux, soit que nous vivons, soit que nous mourons, nous sommes au Seigneur et non pas à nous-mêmes. Car Christ est mort, il a revu afin de dominer ainsi sur les vivants et les morts. Je voudrais donc vous montrer d'abord, d'une manière concrète dans la vie de Pierre, ce que ça veut dire, l'autre aile, cette deuxième aile, et puis on tirera quelques conséquences, d'accord? Et c'est là que nous voulions en arriver aujourd'hui, ok? Donc, Pierre, comment est-ce que tu as compris cette autre partie? Alors, j'étais encore dans le bateau et je n'avais rien pris toute la nuit. Épuisé, lessivé, je rentrais pour ranger les filets. Et subitement, en approchant la rive, je vois le Seigneur Jésus qui parle et qui me dit: Pierre, lance les filets à la droite du bateau pour prendre des poissons. Seigneur, j'ai travaillé dur toute la nuit et je n'ai rien pris. Jésus n'a pas changé d'expression. Il m'avait donné un ordre. Et je voyais dans ses yeux que cet ordre, il le maintenait. Il faisait appel à moi par ses yeux. Donc j'ai dit: mais au Seigneur, à ta parole, je lance le filet. Tellement de poissons que j'ai vite appelé Jacques et Jean qui sont venus à mon secours. Et avec eux, nous avons essayé de tout mettre Mais il y avait quelque chose de surréel, même d'effrayant qui se passait. Ça n'arrive pas. Ça ne peut pas arriver. Et les bateaux coulaient sur le poids des poissons. J'ai dit, Seigneur, éloigne-toi de moi. Il est en train d'agir pour moi, un Seigneur pour moi. Il me bénit avec une pêche incroyable. Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un homme pécheur. Et il m'a dit, et c'est là que j'ai compris l'autre aile, il m'a dit, ne crains pas Pierre, désormais tu seras pécheur d'homme. Il m'a réquisitionné. Il a réquisitionné ma vie entière. Il m'a dit, maintenant, tu es à moi. Et ce sont mes projets dont tu es le serviteur absolu. Ah, Jésus est Seigneur. Non seulement dans son habitude de sauver et donner, mais aussi dans son habitude de tout réquisitionner pour lui-même. Soit donc que nous vivons, soit donc que nous mourons, nous sommes au Seigneur. Cela, nous le voyons dans le deuxième passage aussi que vous avez devant vous. Je vais quand même le lire, où nous lisons « Car l'amour de Dieu nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts, et qu'il est mort pour tous, regardez bien, Jésus est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Le but de la mort de Jésus-Christ, oui, c'est de faire quelque chose pour vous, qu'il devienne quelque chose pour vous, mais aussi le but de sa mort, et vous ne pouvez pas avoir le premier sans le deuxième, le but de sa mort, il est mort pour tous afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour lui. Chers amis, là nous avons quelque chose de tellement profond et transformateur que ça change tout. Ça signifie que lorsque tu deviens chrétienne, le Seigneur te réquisitionne de manière à ce que ton but suprême et ultime en toute chose a complètement changé. Et je me dis en tant que chrétien, je me dis ceci, Christ est mon Seigneur, ça veut dire que mon but suprême, c'est d'être quelque chose à lui, pour son plaisir, pour sa satisfaction. Mais vous voyez le problème, le péché, c'est que on vit pour soi-même. Hein? Il est mort afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. Avant de devenir chrétien, tu ne peux pas faire autrement. Tu vis pour toi-même. Tu vois tout par rapport à quoi? Est-ce que ça va me gagner ce qu'il me faut? Et il y a des gens qui veulent être chrétiens et ils veulent avoir Jésus pour ce qu'il peut être pour eux. Point. Pour eux, il y a une aile. C'est Christ est venu, je suis content qu'il peut tout faire, qu'il est Seigneur. Et donc, ce qu'il peut faire pour moi, je le veux comme ça. Ce n'est pas possible. Parce qu'il est mort et vivant afin que nous ne vivions plus avec le but final, le but plus important de notre vie, d'être bien. De jouir, nous, de ceci ou de cela. Il transforme. Il dit, c'est moi qui suis le centre. Toutes choses sont de moi et pour moi. Maintenant, tu vivras pour que moi, je sois satisfait. Pour que j'aie du plaisir. Nous avons, et j'aborde le quatrième point, ayant dit que la Seigneurie de Jésus a deux côtés, maintenant je dis que nous sommes pas équilibrés. Et le plus souvent, nous mettons trop d'accent, ou tout l'accent, sur seulement le côté qui est pour nous. Et nous pensons pas du tout à lui et ce qu'il reçoit. En Jean 4, et vous l'avez presque au milieu de la feuille, Jésus nous montre que les disciples aussi étaient bancals. Eux aussi, ils avaient l'habitude d'aimer bien une aile, et je dirais ne pas connaître même l'autre aile. Ne pas connaître la gloire et la merveille de pouvoir être à Christ et de vivre pour son plaisir. Donc Jésus dit en Jean 4 ceci, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Il parle de sa relation avec le Père. Il dit qu'il y a une aile, que dans ma relation avec le Père, j'ai quelque chose avec le Père que vous n'avez aucune idée de ce que c'est encore. Et puis il explique. Il dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Il dit, la joie, le privilège, vraiment comment dire, la pierre de touche de ma vie, ce qui le rend le plus formidable, ce n'est pas que le Père me donne, mais c'est que le Père m'a réquisitionné pour que je sois quelque chose pour lui. Ça, vous savez que être sous les ordres de quelqu'un, ça organise ta vie, tu dois faire selon les ordres, mais ça élève ta vie. Voilà un soldat qui est derrière un bureau, il pousse des papiers toute la journée. Et le général le plus renommé de l'époque, un homme admiré par tous, le réquisitionne. Il dit, tu vas quitter ce siège-là et je te veux pour mon assistant personnel. Ben, le nom de ce général est connu dans les foyers de tout le pays. Et maintenant, moi, je suis réquisitionné pour être 24 sur 24 heures, 7 jours sur 7, à son service. Et qu'est-ce que je me dis? Quelle aubaine! Avant, ma vie était aussi grande que mon individualité, un peu perdue, arbitraire. Maintenant, je suis lié aux exploits du général. Ma vie est aussi grande que celui que je sers. Je suis entraîné dans ses projets. Donc, c'est ça, être à Christ, réquisitionné. Ce n'est pas une chose négative. C'est le plus grand privilège. Paul aimait dire plus que toute autre chose, il aimait se définir comme si Paul, apôtre et esclave de Jésus-Christ. C'est ça que les disciples n'avaient pas compris. J'ai une nourriture dont vous ne savez rien, vous ne comprenez pas. Vous aimez bien que Dieu soit pour vous, mais être à Dieu complètement livré à lui, vous ne savez pas comme c'est une nourriture. De ne plus être égoïste. Je m'intéresse à quelque chose car ça me sert. Je m'intéresse même à Dieu quand il me sert. Quelle folie, quelle laideur, quel péché, quelle chose inacceptable pour Dieu. Mais il y a des gens qui veulent être chrétiens sur cette base, de cette aile. Avoir le Jésus qui a été fait quelque chose pour moi, sans être réquisitionné pour être maintenant, ne vivre plus pour moi-même, mais pour être quelque chose pour lui. Qu'est-ce que ça change? C'est mon cinquième point. Et ça change tout. Ça enlève l'égocentrisme de la vie. Ça nous met dans un repos incroyable. Parce que quand je cherche pour moi-même, je suis toujours mal à l'aise. Parce que j'ai besoin toujours de plus. Mais quand mon but ultime, c'est qu'il me rende ce qu'il veut être pour lui, il y a un repos. C'est à lui de me rendre tout ce qu'il veut. Et s'il veut accomplir quelque chose de petit ou de grand par moi, ça c'est à lui. Je suis aux ordres. Donc un repos. Il y a une assurance, une confiance aussi qui s'installe dans la vie du chrétien. Quand il est sous ordre, quand il est réquisitionné. Je vous donne un exemple. Pierre a vu Jésus marcher sur les eaux un jour. Et rappelez-vous de ce qu'il a dit? Il a dit, Seigneur, dis-moi, commande-moi de venir vers toi. Pourquoi est-ce qu'il a dit ça? C'est comme s'il avait dit, je veux être sous tes ordres. Parce que si j'essaie de marcher sur l'eau et je ne sais pas sous tes ordres, vous comprenez? Si tu me commandes, toi Seigneur, tu dois faire cela, ah, je sais que tu vas faire en sorte que je puisse faire cela. Et quand nous nous sentons sous ordre, je suis à Christ et je fais ce qu'il dit, je sais qu'il est avec moi. Parce que je ne fais ça, je ne le fais pas pour moi-même. Je ne le fais pas parce que je le veux, je suis à lui. Ça change l'adoration, le culte. Parce que si ultimement, suprêmement, notre désir, c'est d'être quelque chose pour son plaisir, quelque chose à lui, l'adoration devient quelque chose pour lui. Et pas pour nous. Dans beaucoup d'églises dans ce pays, l'adoration est pour l'homme. C'est pour notre jouissance, n'est-ce pas? Et la forme même du culte a changé parce que les hommes ont perdu de vue cette réalité. Je suis d'accord avec vous qu'on doit avoir les deux et jamais un. Toujours, quand nous adorons, nous sommes bénis, nous sommes nourris, nous sommes émerveillés par l'amour de Christ pour nous, par tout ce qu'il est pour nous. Mais notre but final, étant rempli par lui, étant béni par lui, c'est d'être quand même quelque chose pour lui. Et dans le culte, la forme et le but et le désir, ce n'est pas simplement on a été béni. Ça a été un moment fort pour nous. On a reçu. Tellement égoïste. Je dis, quand est-ce que le Christ va recevoir quelque chose? L'adoration, oui, est bienfaisant pour nous. Mais l'adoration est un hommage à lui. Pour lui. C'est cela que nous voyons quand nous lisons dans le livre d'Apocalypse. Et là, je termine là. Je regardais, j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône, des êtres vivants, des vieillards, le nombre était des myriades, des milliers, disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir. Pas seulement capable de donner, mais digne de recevoir, chers amis, la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire, la louange, et toutes les créatures qui sont sous le ciel, sur la terre, sur le mer, tout ce qui s'y trouve, je les ai entendus qui disaient à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, sois l'honneur, la louange, la gloire, la force au siècle des siècles, et les quatre êtres vivants disaient Amen, et les vieillards se prosternèrent, et adorèrent. Une grande partie de notre plaisir, ce n'est pas dans le fait de recevoir, c'est dans le fait de pouvoir donner, de se prosterner et d'adorer. À toi quelque chose, à toi honneur. Nous sommes réquisitionnés, nous ne sommes plus à nous-mêmes, le but final n'est plus ce que je gagne. Quelle transformation de vie! Et vous savez d'où ça vient? Ça vient tout simplement de la vue de ce qu'il a fait pour nous. Quand nous voyons que Christ n'a pas pensé à sa jouissance, en descendant, en se dépouillant, en devenant homme, en souffrant 33 ans, en allant jusqu'à la croix, il ne pensait pas à sa jouissance, à ce qu'il allait gagner. Il a fait ça pour nous. Nous pouvons faire écho de ce cantique qui dit « Vit-on jamais amour si grand ?» Et voilà pourquoi je suis content d'être réquisitionné, d'être esclave de Jésus-Christ. « Vit-on jamais amour si grand ?» S'unir à douleur plus extrême, et l'épine offrant du mourant resplendir comme un diadème. Je voudrais t'apporter, Seigneur, tout l'univers en humble offrande, mais voici ma vie et mon cœur, c'est ce qu'un tel amour demande. Nous allons chanter. Le cantique numéro 285. Prends ma vie, elle doit être. Pas donne-moi, mais prends ma vie, elle doit être. Et je voudrais vous demander d'examiner votre cœur tout en louant le Seigneur et en chantant. Est-ce que vous avez jamais eu le souci de ce qu'il recevra de vous et pas ce que vous recevrez de lui? 285.
Être à toi seul, ô divin maître, que sur le flot de mes jours, ton regard brille toujours, que mes mains à ton service s'offrent pour le sacrifice. Qu'à te suivre pas à pas, mes pieds ne faiblissent pas. Que mon esprit s'illumine de ta sagesse divine. Prends mon argent et mon or, et toi seul sois mon trésor, que ma volonté devienne la servante de la tienne. Fais ton trône de mon cœur, il t'appartient, mon sauveur.
Je vous invite à prier librement.